Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Dans ce dernier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Sintra. Frédéric est entrepreneur, auteur, conférencière. Elle intervient sur tout un tas de thématiques et notamment sur le sujet de l'ambition qui est le thème sur lequel porte notre échange d'aujourd'hui. Mais une ambition saine, une ambition comme moteur de développement personnel à l'opposé du désir de gloire ou d'une ambition qui s'exprimerait au détriment d'autrui. Dans cet épisode, Frédéric nous raconte son parcours, nous explique l'élément déclencheur de son ambition à elle, à titre personnel, en nous relatant un épisode extrêmement intime de sa vie et qui donnera lieu, bien des années plus tard, à l'écriture de son livre « Comment l'ambition vient aux filles ». Frédéric revient aussi sur les raisons pour lesquelles, malgré les diplômes, les femmes accèdent moins que les hommes à des postes de manager. Elle nous partage son point de vue concernant les initiatives qui ont été prises par les gouvernements pour lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Et puis, elle nous raconte aussi son parcours d'entrepreneur. Elle revient sur les raisons qui ont motivé son choix de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale à un âge clé de sa carrière. Merci beaucoup à Frédéric pour sa générosité, pour ses conseils. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors bonjour Frédéric et merci de m'avoir rejoint sur Droit Devant aujourd'hui pour parler d'ambition.
Bonjour et merci de votre accueil.
Alors Frédéric, j'ai lu sur vous que vous avez participé quand vous aviez 17 ans à une émission à l'époque avec Elisabeth Badinter et François Giroux. C'était une émission où vous étiez porté volontaire pour aller dire publiquement, c'était donc une émission consacrée à l'ambition, sur comment l'ambition vient aux filles. Et donc, j'ai compris que vous étiez manifesté pour aller dire publiquement « Oui, moi, je suis une fille et je suis ambitieuse ». C'était en 1983, c'était sans doute, et vous allez confirmer ou infirmer peut-être à l'époque un petit peu incongru, quand on était une femme, de manifester ostensiblement son ambition. L'ambition, c'est encore aujourd'hui un sujet un petit peu tabou. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ce constat que je fais est partagé et que vous trouvez aussi que l'ambition, davantage quand on est une femme finalement, a quelque chose de tabou?
Alors effectivement, le mot ambition revêt en fait deux définitions. La première, celle qui vient à l'esprit, quand on parle de personne notamment, c'est quelqu'un qui a un désir de gloire et les gens n'ont pas tellement envie de s'assumer ambitieux parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont ambitieux, c'est au détriment d'autrui. On a cette image de la personne qui va écraser, qui va être assez prétentieuse. Or, l'ambition, c'est a aussi une autre définition, c'est le désir de réaliser un projet. Je défie quiconque de ne pas dire qu'il a envie d'être ambitieux ou qu'il est ambitieux. Quand on parle d'un projet ambitieux, et les entreprises ont souvent des projets ambitieux, parfois c'est ambition 2030, ambition ceci, cela, etc., c'est toujours extrêmement positif. Et effectivement, il y a une dichotomie entre la personne ambitieuse telle qu'elle est perçue, ou l'image que l'inconscient collectif renvoie, et un projet ambitieux. Néanmoins, c'est un mot qui maintenant commence à devenir extrêmement positif, et moi je m'en rends compte, eu égard aux sollicitations que je peux avoir pour intervenir en entreprise sur cette thématique, et on considère que l'ambition, c'est aussi le moteur de développement. Alors je vais revenir justement sur ce que vous avez rappelé, effectivement, en 83. Mon objectif n'était pas de m'auto-proclamer ambitieuse, mais c'était plutôt par rapport à une réaction. J'étais à l'époque, moi j'avais eu mon bac scientifique à 16 ans, j'étais en classe préparatoire, je m'appelle Frédéric, je n'ai pas une éducation typiquement féminine ou typiquement masculine, non genrée, j'étais une petite fille de la campagne qui faisait des cabanes dans les bois, qui était plutôt en short et en basket parce que c'était quand même un peu plus confortable pour être sur l'extérieur, pas du tout habituée à cette une vie un petit peu plus domestique. Bon, ben, j'avais aussi, je jouais un peu à la poupée. Voilà, enfin, il n'y avait pas de sujet. Ma mère interdisait, et je l'en remercie, aux personnes de m'offrir des petits aspirateurs, ce genre de choses, pour ne pas me conditionner à devenir une petite femme d'intérieur. Enfin bref, pour moi, j'avais pas forcément de sujet perçu de fille, garçon. J'étais une petite fille, bien dans sa peau, équilibrée, voilà. Et en fait, quand j'étais en classe préparatoire, il y a un des garçons de ma classe qui m'avait dit « Oh, les filles, vous nous prenez les places au concours. » Et là, en fait, il me renvoyait le fait que parce que j'étais une fille, je ne pouvais pas prétendre nécessairement... C'était même pas tant l'ambition à ce moment-là, c'était au métier que j'envisageais. Et en fait, moi, j'étais à la campagne, mais ce qui me faisait rêver, c'était de voir ces femmes en tailleur qui prenaient l'avion, qui allaient à l'étranger, etc. Je ne savais pas trop ce que c'était, parce que dans mon environnement personnel, je n'en connaissais pas vraiment, mais j'avais plutôt envie de ça, plutôt qu'avoir cette petite vie bien rangée. Et donc, ben pour moi, j'avais envie de faire ça. Est-ce que ça s'appelait l'ambition ou pas? C'était ce que j'avais envie de faire. Et en fait, la veille de passer mon concours HEC, j'avais vu un appel à témoins, comment l'ambition vient aux filles. Donc j'avais fait ma grande lettre en expliquant tout ça, et il se trouve que j'avais été sélectionnée pour participer à l'émission aux côtés d'Elisabeth Badinter et de François Giroux, et j'y représentais la jeune génération. Et effectivement, je disais, ben pour moi, l'ambition n'a pas de sexe. Aujourd'hui, je dis l'ambition n'a pas d'âge, je rajoute. Et en fait, il y avait une petite phrase que j'ai retenue et que j'utilise toujours. C'est « moi, je veux tenter un maximum de choses. Quitte à échouer, j'aurai au moins le mérite d'avoir essayé. »
Vous cultivez l'échec. Il n'y a pas de fatalité à échouer, et c'est une source d'apprentissage.
Oui, mais je ne me parle même pas d'échec. C'est qu'en fait, je tente des choses. Ça marche plus ou moins bien. Ce n'est pas tant d'échec, mais je tente. Parce qu'en fait, si vous prenez, on prend toujours l'exemple du petit enfant qui va faire du vélo. Il se casse un peu la figure, il continue, il remonte, etc. etc. Pour les champions, bah c'est pareil. Hein, avant d'être des champions, ils ont quand même pas mal d'efforts à faire, voire de moindres réussites. J'aime pas trop justement cette culture de l'échec. On peut parler d'erreurs, on peut parler de choses qu'on a plus ou moins bien fait. Mais moi, je ne prône pas en disant « allez, je vais vous raconter l'échec, et c'est gloire à l'échec ». En tout cas, c'est plutôt des ajustements, et puis on tente des choses. On se rend compte que ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, ben pourquoi ça a pas marché? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réajuste? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on entérine ça? Est-ce qu'on, c'est bien d'être persévérant, mais parfois, à un moment donné, il faut dire stop. Exactement. Et puis prendre une autre route. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, notamment, parfois il y a des ajustements à faire. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, sur l'ambition, et je reviens sur votre deuxième point qui était l'ambition genrée. Est-ce qu'elle est moins bien perçue lorsque c'est une femme? On va dire probablement que l'inconscient collectif attend des femmes qu'elles soient probablement un peu plus dans le care, dans le soin des autres. Qui dit ambition dit aussi s'affirmer en tant que personne. Et peut-être que justement, c'est là qu'il peut y avoir un sujet, en disant que c'est probablement beaucoup plus normal et naturel, sans même parler d'ambition, mais qu'un homme veuille faire carrière pour une femme, même si heureusement les choses changent. Et surtout si une femme l'assume en disant « je veux faire carrière, je veux gagner de l'argent », là c'est un autre sujet. Peut-être que là justement il y a un sujet qui est un peu plus tabou parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Mais néanmoins, heureusement, il y a toute une génération, toute la jeune génération qui arrive, qui a fait les mêmes études que les garçons, et beaucoup moins dans cette logique de se dire de patriarcat, et bien de se dire est-ce qu'il y a des différences. Et puis la génération à laquelle j'appartiens, hein, celle des quinquas, a aussi fait l'objet de toute cette génération qui a commencé à faire des études supérieures. Rappelons en fait que les grandes écoles ont été ouvertes aux femmes dans les années 72, pour Polytechnique HEC, je crois. Enfin, et en tout cas, ça veut dire qu'il y avait un peu de femmes, et là, on fait partie de ces cohortes.
Alors, on va y revenir justement sur les études supérieures qui sont réalisées par les femmes, juste après. Mais pour en revenir au sujet de cette toute première émission, c'était un peu la prophétie autoréalisatrice, parce que plusieurs années après, vous retrouvez à écrire un livre qui traite de l'ambition justement, et vous cherchez un titre, vous retombez sur ces images, et je comprends qu'en revoyant ces images, vous dites en réalité je tiens mon titre, et c'est ceux-là que j'ai lus, et est-ce que vous pouvez nous raconter si c'est vrai? Vous allez donc reprendre le titre de cette émission qui s'appelait « Comment vient l'ambition ?». Alors, sans surprise, Frédéric, je vais reprendre le titre pour vous poser la question, ce qui va vous obliger à pitcher un petit peu le livre « Comment vient l'ambition, justement ?».
Alors, c'est effectivement « Comment l'ambition vient aux filles ». Et moi, j'avais envie d'écrire un livre, le rêve de pas mal de personnes. Et je ne savais pas si j'allais écrire sur la silver economy, sur les aidants. Et comme je faisais partie des réseaux qui œuvrent pour la mixité, je trouvais que s'il y avait... On parlait beaucoup du plafond de verre et un peu moins de la niaque, de l'envie. Et c'est par hasard, en cherchant sur Internet, que j'ai retrouvé en fait les archives de l'INA avec cette émission de télé. Et là, je me suis dit, ben, je vais écrire sur l'ambition, en fait. Hein, voilà. Et du coup, en reprenant le titre « Comment l'ambition vient aux filles », première édition, et le second, c'était « Comment vient l'ambition », puisque je l'ai ouvert aux hommes et aux femmes. Alors, comment vient l'ambition ? Ben là, en fait, c'est extrêmement varié. L'ambition peut venir du cercle familial. Ça peut être parce que c'est complètement naturel d'être ambitieux, de faire carrière. Ça peut être aussi par réaction.
Pour s'extraire d'un contexte familial qui ne convient pas.
Ou tout simplement parce qu'il y a des aspirations aussi des parents à faire en sorte que l'enfant soit mieux. Et avec une projection, avec des gens de familles plus modestes et qui vont justement inculquer cette niaque en disant « moi je n'ai pas pu le faire, mais toi ». Ma fille, mon fils, tu vas pouvoir le faire et je vais te donner les moyens de le faire. Je vais te donner les moyens financiers, les moyens affectifs, la confiance. Parce qu'il y a un élément extrêmement fort sur l'ambition, c'est la confiance. Est-ce qu'on a confiance ? Est-ce qu'on a confiance en soi ? Est-ce que d'autres personnes nous autorisent à avoir confiance et peuvent nous conforter dans notre développement ? Ça peut être aussi par des activités extra-professionnelles, enfin pas professionnelles, mais en tout cas dans les loisirs, où là, le petit enfant aura été mis en confiance, on lui aura appris à prendre des risques. Et c'est toujours cette histoire de tenter, hein, appris à prendre des risques en disant que bah, si ça se passe pas très très bien, c'est pas très grave et qu'il faut qu'il recommence. Et là, voilà, on lui inculque le fait qu'il puisse aller au-delà. Parfois, ça va être des réactions autres. Je pense justement dans mon livre, au-delà de raconter ma propre histoire, j'ai interviewé pas mal de personnes et certaines, c'était par exemple au moment de l'adolescence où il y a eu une rupture familiale et il y avait finalement presque le choix entre dire qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est même si c'est la question ne se pose pas comme ça, entre ce qui aurait pu dégénérer en délinquance pour certaines, voire en disant « non, pas ça pour moi, je suis au fond dans la situation, je mets un grand coup d'accélérateur et là moi je vais m'investir là parce que je ne veux pas vivre la même chose que ce que vit ma mère actuellement ». Puis après c'est là aussi les professeurs, l'éducation, les professeurs qui ont pu soit inspirer l'enfant se disant « j'ai envie d'être comme ». Un tel, ou alors le professeur ou l'instituteur qui a repéré un talent particulier chez un petit enfant et qui l'aura amené à le développer, voire qui aura donné confiance à tel autre. Parce qu'après, il y a aussi tout le conditionnement. Quand on vous dit « vous êtes comme ci, vous êtes comme ça », bah, vous allez vous conforter dans ce qu'on vous dit. Et voilà, donc ça, c'est au moment de la petite enfance, de la jeunesse. Après, elle peut naître et renaître, et heureusement, dans la vie d'adulte et dans la vie professionnelle. Et l'entourage y est pour beaucoup, pour donner cette confiance. Et pour aller pas à pas. Et là, il y a des multiples histoires où des personnes, hommes et femmes, auront réalisé leurs ambitions parce que on sera venu les chercher, on leur a dit bah tiens, je pense à toi pour tel poste ou pour telle mission, sans qu'elles n'en aient été conscientes, en disant mais tu es bien sûr. Et donc, bah, ce qui fait gagner en confiance. Et puis après, l'ambition, elle naît des petits pas. Qu'on peut faire, parce que quand on est ambitieux, soit on a envie, et comme le disait, c'est pareil, l'une des personnes que j'ai interviewées, moi j'ai envie de manger le mammouth, mais le mammouth étant trop gros, ben finalement j'en coupe des tranches. Et voilà, et chaque petite tranche est une étape complémentaire qui va donner confiance et qui va permettre d'avoir envie de manger les autres tranches.
D'accord, alors on le voit, hein, les études convergent pour dire que les femmes sont très diplômées aujourd'hui, et c'est ce que vous commenciez à évoquer tout à l'heure, peut-être même encore plus diplômées que les hommes. Et pour autant, elles sont moins présentes dans les niveaux élevés des organisations ou des entreprises. Vous avez évoqué aussi le sujet de l'école tout à l'heure. J'entends souvent cette remarque que le manque d'ambition féminine peut aussi venir de ce qu'on cultive à l'école, qui consiste à en cette fausse croyance que quand on travaille bien, qu'on est studieuse, qu'on est impliquée, et bien on va naturellement être récompensé par des bonnes notes dans le système scolaire. Mais en réalité, le monde de l'entreprise, ce n'est pas tellement cela, parce qu'il faut faire son autopromotion et faire un vrai travail pour être reconnu. Donc c'est vraiment le savoir-faire et puis le faire savoir aussi. Quelle est votre analyse sur le sujet du manque de présence des femmes dans les niveaux élevés des entreprises? Est-ce que vous le liez à un manque d'ambition ou à un manque d'autopromotion? Comment est-ce que vous l'interprétez?
Alors, il y a beaucoup de raisons. Je vais reprendre, c'est pareil, de nouveau un témoignage. Nicole Etchegouin-Berry, qui était présidente du directoire des caisses d'épargne Noirsande, qui a témoigné dans mon livre, me disait je comprenais pas trop, moi je voulais être patronne de banque, et je comprenais pas trop pourquoi, alors que j'avais envie, je n'étais pas nommée, et je voyais un tel, et je me disais mais pourquoi lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et en fait, elle me dit, il suffit d'analyser ce qui pouvait se passer également dans la petite enfance. Dans la petite enfance, elle me disait, elle a une soixantaine d'années, je voyais les petits garçons qui jouaient dans les cours d'école, qui jouaient en bande. Les petites filles étaient plus jouées à deux, trois, etc., dans des choses calmes, etc. Elle disait, mais déjà là, ils faisaient du réseau, en fait. C'est-à-dire, c'est la prise de risque, et je fais, etc., etc. Je parle à un tel, je parle un peu fort, etc. Et dans l'entreprise, effectivement, c'est tout à fait ce que vous rappelez, c'est-à-dire est-ce que j'ai fait mon réseau interne? Qu'est-ce qui est pour moi le travail? Moi, je me souviens quand j'ai commencé à parler des réseaux, et notamment auprès des femmes, et je parle du réseau que je vais qualifier à la fois d'informel et le réseau utilitaire. Parce qu'on ne peut pas dire que les femmes ne font pas de réseau, c'est pas vrai, elles font du réseau, elles connaissent beaucoup de personnes. C'est comment passer au domaine de ça me sert pour ma carrière, et c'est pas uniquement pour rendre service, même si ça fait partie des choses du réseau, mais c'est à qui je parle et de quoi je parle à cette personne. C'est ça qui crée aussi l'influence. Est-ce que le faire savoir, je le fais en moi-même, en m'auto-proclamant ambitieux, machin, etc., ou est-ce que je suis beaucoup plus habile, et puis ce sont d'autres personnes qui parlent pour moi, y compris dans l'entreprise, et c'est beaucoup plus efficace. Donc effectivement, il y a cet aspect-là. Et puis après, on est toujours peut-être ce que je remarque, même si j'aime pas trop le côté très essentialiste, mais néanmoins ce que je remarque, et notamment dans les femmes que j'accompagne aussi, c'est je suis dans le faire, c'est-à-dire c'est ce fait, c'est ma mission, tout ça. Et je considère que ce qui est annexe, c'est un peu du flonflon, et j'ai pas le temps. Or, il y a le faire, faire du projet, faire une note, faire un reporting. Ok, on va bien faire, mais c'est effectivement ce que vous disiez. Ça peut être ça qui amène à des fonctions. On ne va pas dire non plus qu'il ne faut pas faire. Il faut faire, mais ce n'est pas suffisant. Effectivement, si on a passé son temps pendant tout l'heure du déjeuner à peaufiner le petit chiffre du reporting, machin, etc., mais qu'à côté, il y avait une manifestation dans l'entreprise, voilà, où on pouvait parler, et qu'on a occulté ça, on aura peut-être plus de chances de progresser dans sa carrière en étant allé là où il fallait aller pour être vu, pour être connu, pour être identifié, pour parler de soi, pour parler de ses réalisations. Donc il y a probablement effectivement ce sujet de se dire que les compétences purement du savoir-faire ne sont pas suffisantes pour progresser, qu'il y a certes le savoir-être et puis le faire savoir, bien évidemment.
Alors je sais que vous êtes complètement convaincu de l'utilité des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'après plusieurs années de salarié, vous êtes devenu entrepreneur. Parce qu'il y a quelques années, vous avez créé une start-up qui facilite le networking professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure et nous expliquer ce qui a orienté ce choix?
Alors, quand je me suis lancée, même si les choses ont évolué aussi, quand je me suis lancée, effectivement, dans l'entrepreneuriat, moi, je me disais que je voulais, et ça fait partie de l'ambition, hein, j'avais 48 ans à l'époque, j'avais été un petit peu mise en avant par rapport à des trophées de la profession, et là, je me suis dit, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de créer des jobs? Parce que moi, les gens qui m'inspiraient dans mon ambition, au-delà de ceux qui avaient des jolies carrières dans les entreprises, c'était ceux qui avaient pris des risques, y compris des risques financiers, et qui, grâce à ces risques, avaient créé des jobs. Et je me disais, est-ce que je suis capable de ça? Et j'avais justement, avec mon réseau, j'assure le coup, j'ai mon filet de sécurité. Et en fait, comme je n'aime pas trop toujours choisir, je me suis dit, je vais faire deux choses. Une première, où je vais faire du consulting sur mon métier, où j'étais plutôt une experte de la silver economy et du développement, notamment dans le milieu de l'assurance. Et puis un autre, où comme j'étais très investie dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité, je me suis dit, s'il y a un sujet, justement, et je peux contribuer, c'est de permettre aux femmes d'aller développer leur carrière et de réaliser leurs ambitions à travers le réseautage en allant dans les événements professionnels, pas uniquement en allant dans des manifestations de réseau, en allant dans des événements professionnels où elles allaient pouvoir être vues, connues, et puis rencontrer des personnes qui pourraient les aider dans leur carrière, soit par rapport à ce qu'elles racontent, soit parce qu'une remise en relation si elles développent leur activité dans tel ou tel secteur et qu'elles n'ont pas connaissance des événements. Et je me suis dit, voilà, je vais créer quelque chose qui va permettre aux femmes de connaître les événements pro et d'y aller. Et avec cette, je me suis dit, je vais créer une plateforme numérique qui va avoir pour signature accélérateur de connexion professionnelle. Et c'est comme ça que Axiel est né, une application, un site web, une application où les femmes mettaient les événements pro un peu. Je sais pas si vous connaissez un autre site qui s'appelle On va sortir dans la vie perso. Ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai connaissance d'un événement, j'y vais, je le partage et donc du coup on va y aller ensemble. Ça s'est passé comme ça au début. Dans la réalité, ça s'est pas tout à fait passé comme ça en utilisation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes finalement se sont dit, c'est un réseau féminin, ce qui est absolument pas le cas, parce que moi je ne voulais pas créer un autre réseau, mais je voulais créer un outil. Et puis, finalement, en fait, ce qui a pris le pas, c'est que à travers Axiel, j'ai développé d'autres prestations, des animations d'événements pour le compte de structures. C'est ce que je fais par exemple pour BPI France aujourd'hui avec les Midi Entrepreneurs, où là, c'est un événement où une entrepreneur raconte l'envers du décor devant des porteurs et porteuses de projets et entrepreneurs en herbe, et avec un petit comité où les personnes ont l'occasion d'échanger entre elles, les personnes présentes, et donc créer du réseau informel. C'est à partir de l'entrepreneuriat, et là finalement ce n'est plus l'outil qui est mis en avant, mais plutôt le service. Et c'est aussi comme ça que à travers Axiel j'ai développé des services d'accompagnement sur les stratégies d'influence online et offline. En fait, l'outil en tant que tel, j'ai pris la décision de le déconnecter au mois de décembre pour le maintenir sur les réseaux sociaux avec un groupe LinkedIn d'une part, et avec une page, avec un compte Twitter où en fait ce sont des partages d'événements. Parce que de l'idée de la start-up initiale en plateforme, finalement, le fait pour moi de vouloir continuer à avoir plusieurs activités n'était pas compatible avec une mono-activité sur une plateforme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que les services complémentaires étaient encore plus efficaces qu'un outil, sachant que des outils, finalement, il y a d'autres outils qui ont des énormes moyens qui peuvent les développer et que finalement on peut retrouver sur LinkedIn notamment des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas avant mais qui permettent aussi de remplir les objectifs que moi j'avais initialement.
D'accord, alors l'an dernier justement vous avez signé un article « Bonne nouvelle Madame les quinquas, l'ambition n'a ni genre ni âge » et vous avez évoqué tout à l'heure le sujet de l'âge en disant qu'aujourd'hui vous communiquez encore davantage sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quel moment vous avez commencé à lier ces sujets d'âge et d'ambition ?
Eh bien, tout simplement parce que moi, j'ai 56 ans. J'ai 56 ans et j'ai des amis qui ont mon âge, hein, plus ou moins, et qui, en fait, sont pleines de vie, pleines d'envie, pleines d'ambition. Et je me suis dit, mais il y a une espèce d'écart entre ce que je vois des femmes qui m'entourent, y compris dans leur apparence et dans leur allure, et ce qu'on dit des femmes de plus de 50 ans. Alors, des hommes et des femmes de plus de 50 ans. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une différence extrêmement forte. Alors, mon expertise en silver economy, mais si on considère que c'est qui s'intéresse à la fois au grand âge et aux personnes qui accompagnent les personnes en grand âge, qui sont plutôt les aidants, on est dans cette génération dite pivot. Donc, s'intéressant à la génération pivot aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui se passaient alors, après 45 ans et après 50 ans. D'une part, les enfants grandissent et en général quittent le foyer, en tout cas ont moins besoin de soins. Après, il y a l'autre aspect où les parents vieillissent et pour le coup, ont besoin davantage d'attention, au moins d'aide de leurs enfants. avec des vies qui se modifient pas mal parce que des vies perso ou le départ des enfants ou cette nouvelle ce sentiment d'être à la moitié de sa vie ou de tiers, enfin bref, tout dépend comment on le perçoit, en se disant c'est le moment ou jamais de, à la fois dans la vie perso, voilà, avec des séparations, voire des reconstructions de couple, des déménagements, parce que la maison est trop grande, etc. Bref, des changements de vie, des refontes de patrimoine. Et puis, on ne va pas le nier, parfois, au niveau professionnel, des départs qui sont subis, voire choisis. Et donc, un moment de reconstruction, de réinvention. Je pense au livre de Serge Guérin qui s'appelle Les Quinquados, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, où moi je me suis pas mal reconnue, où pour lui, le quinquado est plutôt une quinquada, si on peut dire, à savoir quelqu'un qui va se réinventer. Et j'aime bien cette petite phrase, c'est les gens qui préfèrent les ennuis à l'ennui. Voilà. Et là, je me dis, ouais, il y a cette différence. Et puis, je pense à moi, cette vie de marketeuse, où quand je travaillais, et même dans le conseil, avec des jeunes chefs de produits, quand on parle des produits seniors, plus de 50 ans, etc. Et c'est comme si, dans l'inconscient collectif, on faisait partie du grand paquet, voilà, il y a 50 ans, et voilà, on vit différentes vies, et puis après, paf, on est dans le gros paquet de 50 ans à 100 ans, et on est devenus les vieux. Et moi, non, je me reconnais pas là-dedans, et je reconnais pas mes amis non plus dedans. Vous faisiez allusion à cet article qui est paru dans le Huffington Post, où effectivement, j'ai fait ce texte, et d'ailleurs, quelque chose d'assez rigolo, l'illustration qui a été retenue par le média, c'était forcément une femme à cheveux gris. Alors, c'est bien parce qu'effectivement, on a des cheveux gris, on les assume ou non, mais c'est une toute petite partie de la population. C'est pas, mais c'était pour bien entériner qu'une femme de 50 ans. Alors que dans mon article, je parlais de Karine Viard, je parlais de Sophie Marceau, qui sont nées en 66 comme moi, et qui n'incarnent pas ça. C'est, voilà, c'est que l'image. Voilà, l'image quinca, c'est quoi? Et moi, justement, là, c'est pour dire, on ne se sent pas, même le mot seigneur est assez décrié, même si on est seigneur en entreprise après 45 ans, etc. Et pour montrer, justement, en disant qu'on a de la niaque. Et quand on parle du sujet des femmes, on ne va pas occulter que c'est aussi un moment de transformation, un moment de transformation biologique qui a des conséquences, surtout qui peut, où les femmes peuvent se dire, ah, mais je me sens un peu différente parce que je ne suis plus, entre guillemets, reproductive. Je dois faire plus attention à moi, tout ça, mais c'est, tout ça n'est pas inéluctable. Et moi, je veux vraiment donner le peps en disant, c'est le moment où jamais, on a beaucoup de niaque, on a du temps, on a de l'expérience, et c'est le moment où on va exploser.
Le moment idéal pour avoir de nouveaux projets, finalement.
C'est le moment idéal, et moi, c'est ce que je rencontre beaucoup de femmes comme ça. Alors, bien sûr, tout n'est pas aussi rose, mais en tout cas, il y a des opportunités. Il y a des opportunités aussi, notamment, alors je vais pour la petite partie de femmes qui ont suivi des études, qui ont fait carrière, parce que des entreprises, et c'est tant mieux, féminisent leur conseil d'administration, soit parce qu'elles sont, qu'elles en ont envie, soit parce qu'elles sont un peu poussées par une législation. Souvent, ce sont les conseils d'administration, d'ailleurs, qui vont donner l'impulsion aussi aux équipes opérationnelles pour qu'elles féminisent leur COMEX, etc. Donc, il y a aussi des opportunités. Mais néanmoins, dans les sujets un peu moins roses, effectivement, les femmes de plus de 45 ans, voire 50 ans, qui se trouvent sans emploi quand l'entreprise les a remerciées après de longues années de bons et loyaux services, qui sont dans des métiers qui vieillissent moins bien, hein, on peut parler de la communication, du marketing, etc. Là, ça peut devenir plus compliqué. Il y a des associations du type Force Femmes ou Ars qui vont épauler ces femmes pour voir s'il n'y a pas des compétences à retrouver dans la vie perso, justement, avec les enfants, avec ce qui a été fait dans les associations, pour développer des compétences particulières de polyvalence, parce que il n'y a pas uniquement ce qu'elles ont fait dans l'activité pro qui peut faciliter les choses pour développer de nouveaux projets, voire des reconversions, voire des emplois dans des entreprises qui sollicitent davantage des compétences multiples et variées. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt dans cette dynamique pour dire, 50 ans, c'est, déjà, je dis 50, c'est le nouveau 40. Le sujet, et parce que là, je suis en train de préparer un autre projet d'écriture sur ce sujet, sur ce thème. justement, en disant il faut qu'on prenne, nous, soin de soi, de sa santé, parce que voilà, on a un capital santé, et que plus on vieillit, plus il faut faire attention, même si quand moi je viens du milieu de l'assurance, je sais très bien ce qu'on est de la prévention. En général, quand on nous dit faites ci, faites ça, on n'a pas envie de le faire, c'est quand on commence à avoir le petit pépin que. Donc voilà, là, il faut vraiment faire attention à soi. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer, mais c'est comme une voiture. Une voiture, pour qu'elle continue à rouler, il faut bien l'entretenir, que ce soit au niveau de son moteur, au niveau de la carrosserie.
On est une génération qui valorise complètement la santé, le healthy, aussi bien sur l'alimentaire, culturellement, sur le sport. Enfin, tout converge dans notre génération pour apprendre effectivement à mieux prendre soin de soi.
Particulièrement à 50 ans, et particulièrement quand on est une femme, parce que la baisse des œstrogènes génère d'autres conséquences sur le corps. Donc il faut prendre garde à tout ça. Et donc ce n'est pas une fatalité de prendre du poids, même si tout le monde, on n'est pas tout égal. Ce n'est pas une fatalité. Il faut changer parfois quelques habitudes. Donc on peut pas effacer le temps qui passe, que ce soit à la fois sur son apparence, etc. Mais on peut faire en sorte que tout ça se passe dans les meilleures conditions, avec de l'énergie, tout ça pour nous soutenir dans nos nouveaux projets. Parce que c'est sûr que si on a un petit pépin de santé ou les choses vont pas très très bien, indépendamment de cet univers du LC, etc. On est très factuel. Si on a un petit souci de santé, on ne peut pas être à 100%. Donc c'est comment faire en sorte que, justement, tout ça suive par la prévention, par les bilans qu'on va pouvoir faire, par les changements de vie qui peuvent avoir des conséquences sur l'apparence. Mais vraiment, moi, je suis vraiment sur le moteur, hein, sur tout ça. Et puis, quand on rayonne, l'âge n'est pas un sujet.
Alors merci pour ces conseils à destination des femmes qui seraient dans une réflexion de repositionnement. On a, pareil, en filigrane, évoqué les initiatives qui sont prises par les gouvernements pour lutter contre les inégalités. Je pense à la loi Copé-Zimmermann sur la présence des femmes dans les conseils d'administration, et puis, plus récemment encore, la loi Rixin, qui va permettre davantage de présence des femmes dans les comités de direction, même si les échéances fixées sont encore très lointaines, hein, puisque l'idée étant d'aboutir à 40% de présence féminine, mais à horizon 2030, donc dans une décennie, hein, finalement. Mais il s'agit quand même d'une initiative vertueuse, même si elle est lointaine. Est-ce que vous avez un avis sur ces initiatives qui sont clairement de la discrimination positive et qui peuvent aussi questionner sur la légitimité des femmes qui en bénéficieront? Il y a ce débat-là, qui en bénéficie déjà, d'ailleurs, dans le cadre de la loi Copé-Zimmermann.
Oui, alors effectivement, c'est un sujet, y compris dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité, c'est toujours un sujet de débat, en disant bah ouais, c'est forcé, donc du coup, le truc, c'est on va prendre une femme non compétente qui va remplacer un homme compétent parce qu'il faut remplir les quotas. Bon, déjà, je vais vous citer deux personnes, je crois que c'est Clara Guémard qui disait, moi je préfère être là parce que je bénéficie des quotas que de ne pas l'être. Parce que je n'en bénéficie pas, parce qu'en moi, en se disant, je peux amorcer. Et je crois que c'est la présidente du FMI qui disait, quand on cherche des femmes, on en trouve, sinon on trouve des excuses, quelque chose comme ça. Hein. Donc à partir de là, voilà, c'est que, est-ce qu'il y a ce vivier de femmes? Oui, elles existent, et on ne pense pas nécessairement à elles, ou elles ne se manifestent pas nécessairement, et là, ça accélère le processus. Donc c'est plutôt favorable, effectivement, parce que il y a des femmes de talent, ce qu'il ne faudrait pas, et Dieu sait que ce n'est pas le cas dans ce que j'ai pu constater, c'est-à-dire on a pris un tel parce qu'il fallait remplir. Alors c'est un petit peu le risque, notamment pour des hommes qui sont en situation d'être au management, qui se sentent frustrés. Qui n'a pas entendu dans l'environnement proche. Hein. Moi, j'ai entendu récemment un dirigeant qui avait 50 ans qui se disait de toute façon, dans les entreprises, maintenant, quand vous êtes un homme blanc de plus de 50 ans, c'est fichu pour vous. Ou des jeunes générations, je pense notamment à quelqu'un qui disait ben non, voilà, notamment je suis dans les fonds d'investissement, je voudrais faire ça, mais là, ils ont décidé de recruter que des femmes parce qu'ils voulaient rééquilibrer, donc moi, je ne pourrais pas y aller, etc. Donc, voilà. Après, c'est tout simplement pour se dire que tout le monde part sur la même ligne de départ, et puis il faut y aller. Et puis pour les femmes, on peut pas occulter que les carrières ont pu être parfois un petit peu freinées, on va pas le nier, par des maternités. Oui, ou par qui ont pu à un moment donné freiner un peu, ou par des choix que les femmes ont pu faire. Alors, est-ce que c'est sacrifice ou pas, mais en tout cas une allocation du temps. On parlait des réseaux. Moi, je rencontre pas mal de femmes qui justement reviennent dans les réseaux. On continue à faire une belle carrière, mais reviennent dans tous ces réseaux qui permettent d'accélérer aussi après 50 ans, quand les enfants sont un peu grands, non pas parce qu'on leur a dit il faut rester à la maison, mais parce que dans les choix de vie, elles ont fait ça. Ou alors, si elles étaient en famille monoparentale, ben voilà, elles avaient pas, elles pouvaient pas tout faire à un moment donné de leur vie. C'est pas forcément je subis ou c'est une injonction que j'ai, mais c'est ce qui fait que voilà, ça, c'est moindre accélération. Et puis là, côté femme aussi, et je dirais presque côté petite fille, je suis intervenue récemment devant des classes de troisième pour parler de l'ambition, parce que c'est aussi aux femmes de choisir et aux petites filles et aux jeunes filles, et là j'invite tous les parents qui peuvent nous écouter à inciter aussi leurs filles à aller dans des carrières plutôt scientifiques. Parce que c'est probablement en continuant à faire des maths, et d'ailleurs en troisième on a des choix après dans les secondes, dans les premières et terminales, et beaucoup de filles se disent je renonce aux mathématiques, or ce sont les carrières plutôt scientifiques ou au moins les diplômes avec un bac scientifique qui permettent d'avoir le choix des écoles et aller dans des carrières de numérique, aller dans des carrières d'ingénieur et essayer de sortir du carcan justement un peu genré avec les garçons en école d'ingénieur et les filles en école de com, hein, pour caricaturer. Justement, pour se donner aussi les moyens d'évoluer dans leur carrière et puis ensuite de pouvoir changer de poste, etc. Et pour trouver les bons leviers pour mener une carrière qui mène, si tant est qu'elle le souhaite, à des postes de direction.
Merci Frédéric pour ce témoignage. Et pour clore cet échange sur l'ambition, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre vision du monde du travail de demain ? Ou quels sont vos souhaits ou vos envies pour le monde du travail de demain?
Oh là là, c'est extrêmement vague. Moi, je vais rester sur ma thématique du genre, sur l'ambition. Moi, mon souhait, c'est qu'effectivement, quel que soit son genre, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine sociale, on puisse choisir le métier qu'on a envie de faire, la carrière qu'on a envie d'exercer. Dans le monde de demain, je ne sais pas si c'est mon souhait, mais c'est plutôt ma vision, c'est que les carrières seront encore moins linéaires qu'elles ne le sont, qu'on devra apprendre et qu'il faut qu'on soit homme ou femme, qu'on ait cette capacité d'apprentissage et ce souhait d'apprentissage tout le temps pour être toujours adaptable, employable, et puis pour faire cultiver travailler ses méninges, pour ne pas justement rester dans une zone de confort, même si parfois, et à ces moments de la vie, c'est assez confortable de rester dans une zone qu'on maîtrise. Mais voilà, c'est toujours apprendre, être curieux, alterner les périodes de travail à distance, de travail en équipe, ne pas occulter le travail en équipe et le travail en présentiel, quand bien même le digital permet des tas de choses, parce que c'est aussi là que les idées émergent et que le lien social et le lien social physique et l'informel génèrent des tas d'idées. Donc voilà, donc je le vois avec des entreprises qui vont se réinventer, qui auront à la fois des salariés, des freelances, qui auront des gens en présentiel ou non. Et j'espère que la diversité aura tout lieu d'être, sa place, parce qu'elle est source de performance.